chère, dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Installez-vous les amis, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver avec ma belle bande de bons vivants. Alors aujourd'hui notre dossier du jour est consacré à la cuisine indienne, on va voyager de jolis parfums, de belles épices. Et puis à J-1 du match Paris-Marseille, nous jouerons les arbitres entre un miel récolté près de Paris et un autre dans les calanques marseillaises. Vous goûterez avec nous. Allez, je vous présente mes bons vivants du jour. Nouvelle table, nouveau chef, nouvelle façon de manger et là, l'œil et l'appétit aiguisé. C'est Charlotte Langrand du journal du dimanche.
Bonjour
Charlotte. Ravi de vous retrouver à cette
Ravie
table.
Également.
Chef bistronome, il accorde ses plats aux bonnes bouteilles. Aujourd'hui, il va nous en faire voir de toutes les couleurs. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Vous êtes à la place d'Olivier Pouls qui a pris quelques congés et qui compte toutes ses bouteilles dans sa cave.
Totalement, je pense qu'il est en train de les compter, il fait l'inventaire et quand il a fini l'inventaire, il m'appelle pour les consommer.
Voilà, c'est ça, c'est prévu. Fanny Rascle nous rejoint dans un instant pour son journal de la cuisine et Jean-Luc Petit-Renaud nous tranchera une belle part de pâté en croûte. Et nous partagerons le plat du jour, écoutez bien, avec un des plus grands chefs cuisiniers, Alain Passard est notre invité. L'occasion de revenir sur ses plus grands plats et puis sur son art de la transmission aussi. Allez, avant d'aller faire un petit tour sur un marché de Nantes, convoquons nos souvenirs de goût. Quel est le goût qui a marqué votre semaine? Même si c'est les vacances, les papilles, elles ne sont pas en vacances. On va commencer par vous, Charlotte Langrand.
Alors moi, c'est une purée aux huîtres que j'ai mangé chez au restaurant Contraste, qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Paris. C'est une purée de pommes de terre bien onctueuse avec des petites huîtres numéro 3 de Cancale coupées en brunoise, comme ça.
Un petit dé à l'intérieur.
Petit dé, voilà, ça fait un beau contraste justement. Terre-mer.
Ah ben on y est là, oui.
Voilà. Et ça accompagne un cochon bellota bien terrien aussi, avec des herbes marines, un peu de pourpier de mer et de christ marine. Et c'était à la fois réconfortant et aux herbes. Et c'était le bon reflet des deux chefs amis qui sont derrière les fourneaux, qui mêlent comme ça leurs origines bretonnes et catalanes, Erwan Ledru et Kevin Deport.
Ça s'appelle Contraste,
ouais,
alors.
Rue d'Anjou à Paris, dans
très
le 8e.
Votre goût de la semaine, Yves Candebord?
Mon goût de la semaine, c'est une copine.
Voilà. Ah,
je peux le dire.
Vous avez mangé une copine?
J'ai pas mangé une copine, Michel Lagroir. C'est Amandine Chignot, qu'on avait connue au Prince de Galles à l'époque, qui a monté son premier restaurant rue d'Enghien à Paris. Alors, elle a appelé, c'est pas moi qui lui ai dit le nom du restaurant, Pouliche.
Très bien.
C'est très joli.
C'est joli.
Justement, en tant qu'éleveur de chevaux, je trouve ça très très joli. Et elle fait un restaurant qui lui ressemble, parce que là, c'est vif, c'est jeune, c'est bon, c'est beau. Alors, vous choisissez pas vos entrées, elle vous amène plein de petits hors d'œuvre pour vous mettre en
ambiance
appétit.
Ambiance tapas comme chez Candebord.
Voilà, ambiance hors d'œuvre.
Ah oui.
J'insiste.
Ah, vous avez raison. Oui.
Le mot tapas est hispanique, mais dans notre...
Le hors d'œuvre est français.
Le hors d'œuvre est français, voilà. Et après, vous avez le choix entre différents plats. Moi, j'ai choisi un canard de chasse avec des châtaignes et du chou, avec un poivre de sapin qui était totalement étonnant.
Poivre de sapin, alors, oui, c'est étonnant ça.
Je ne connaissais pas, j'ai demandé. En fin de compte, c'est des épines de sapin qui sont totalement concassées, torréfiées et qui amènent un parfum très particulier. Mais j'ai passé un très très bon moment, c'est un très joli restaurant, elle vient d'ouvrir. Je suis très contente pour elle.
Amandine Chéniaud, mon goût de la semaine, moi, c'est celui de la Grande Bleue. La Méditerranée que vous aimez, Yves Candebord, ouais. Et vous aussi, Charlotte, j'imagine. C'est un livre de Yonis Saada aux éditions Solar. Yonis Saada, on l'a découvert il y a quelques années avec Top Chef. Il a deux restaurants à Paris qui s'appellent Bagnard. Et il cuisine vraiment la Méditerranée. Mais comme on pourrait la cuisiner en famille, il la rend contemporaine, il la revisite. Il y a évidemment les tchatchoukas, les artichauts à la juive. Et c'est un joli livre de cuisine méditerranéenne complètement accessible. Une pita falafel, par exemple, le pain pita, le malawash. Il fait une belle recette avec une chermoula. Voilà, il s'amuse à riz de veau à la chermoula. Ça, c'est étonnant. Ça s'appelle La Grande Bleue et c'est paru chez Solar. Et c'est une cuisine méditerranéenne et accessible. Et bien, voilà nos goûts de la semaine. Maintenant, c'est l'heure d'aller au marché Émile Zola à Nantes. François Coulon, le correspondant d'Europe 1, a voulu en savoir plus sur les rapports que les habitués du marché entretiennent avec leurs producteurs locaux.
Je vais prendre une salade, une batavia, s'il vous plaît.
Moi, je suis fière de leur boulot. Là, vous voyez, j'ai acheté une botte de radigno, là, super, avec des jeunes qui font du bon boulot. On est là pour leur dire continuez.
Les gens sont très intéressés de voir le producteur, de voir comment ça se travaille et avoir des bons produits locaux et naturels. C'est très stimulant. On sent que les gens sont sur le local et naturel et bio. On le sent beaucoup. Et
les filières courtes, c'est moins polluant. Acheter en plein hiver, au mois de décembre, des tomates qui viennent de je ne sais où, je vois pas l'intérêt. En plus, elles sont dégueulasses. Et puis ça fait vivre la région. ça crée des emplois. Puis c'est bon.
Nous sommes d'accord, absolument, madame. Ça rentre.
Totalement d'accord.
Ça rentre, voilà, ça y est, non, nous ne sommes pas tout seuls.
Mais c'est bien parce qu'on se rend compte que là, que tout ce qui est fait dans les restaurants, tout ce qui est fait maintenant aussi dans les écoles hôtelières, on le voit dans les marchés, les gens s'approprient cette philosophie de bien manger des produits de saison avec du goût.
Et les produits locaux, en plus d'assurer justement une filière avec des commerçants du coin, nous permettent aussi de manger des produits frais qui n'ont pas fait des semaines de chambre froide, par exemple. C'est ça aussi l'intérêt, hein, c'est que les vitamines sont préservées. Alors vous, en Normandie, en Alsace, au Pays Basque, comment vivez-vous avec vos producteurs locaux? Eh bien, n'hésitez pas, tiens, à nous en parler au 39-21. Le miel est un concentré de la biodiversité de nos régions. Miel de Saint-Denis en Île-de-France contre miel des Calanques du côté de Marseille. Eh bien, J-1 de PSGOM. On va faire couler le miel à la table des bons vivants. A tout de suite, bon samedi.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Alors, en attendant le journal de la cuisine et le dossier du jour consacré à la cuisine indienne, nous allons plonger dans le pot de miel. Tiens, petit sondage autour de la table des bons vivants. Charlotte Langrand, le miel, vous aimez? Ça vous laisse indifférente?
Non, non, moi j'aime bien. Je me suis détachée de mes souvenirs de mal de gorge où on nous donnait du miel quand on était plus jeune pour soigner un petit peu les toux. Mais sinon, je me souviens récemment de miel chez Alexandre Gauthier à la Grenouillère, où il nous le sert direct sur la palette.
Ah on oui, le mâche comme un chewing-gum. Avec le cadre des abeilles, voilà, absolument, le cadre, les alvéoles encore.
On le mâche comme un chewing-gum et puis on a un peu de cire qui reste dans la bouche.
C'est
évidemment,
vrai,
on ne l'avale pas, hein, mais et c'est vraiment un goût brut comme ça.
Ça, c'est
et
vrai
bien
que c'est
fort,
une sensation assez sympa.
Ouais.
Yves Candebord, vous le Béarnais, on a de beaux pots de miel dans le Béarn.
Mais moi, je suis amoureux du miel de Corse. Le miel d'Arbousier.
Ah oui, ah, ça c'est vrai
servi
que c'est super.
Avec du brioche, pour moi, c'est une merveille.
Ça, c'est un bel accord. Oui.
C'est vrai que c'est, alors, ce miel je vois, qui a une telle puissance, voilà, qui fait disparaître vraiment des fois ce côté un peu sucrayon que peut avoir le miel, parce que c'est quand même assez riche quand même en sucre.
On parle du vrai miel de nos apiculteurs, hein, pas ceux qu'on trouve en grande surface qui sont coupés
bien
avec
sûr
du sirop de glucose et
non,
du made in China. Hein.
Mais là, on a un miel qui, voilà, où vraiment il y a des parfums, une puissance, une légère acidité, il y a
c'est
une
sublime
superbe équilibre. Et c'est ma petite Madeleine de Proust, le miel de chez Pierre Carly, à Patrimonio.
Ça, c'est
apiculteur.
Précis. Demain est un grand jour pour les amateurs de foot. Hein, c'est PSGOM demain. Alors, ici, notre truc, c'est plutôt le miel. Hein, vous venez de l'entendre. Alors, on va faire un PSGOM du miel. À ma gauche, un miel récolté en pleine ville, à Saint-Denis, tout près du Stade de France. Et à ma droite, un miel des Calanques, face à la mer. Alors, miel des villes ou miel des champs. Match aller. Les deux équipes vont s'affronter sur la flore environnante et la biodiversité. Écoutez, au micro de Julien Amat, c'est Olivier Darnay qui est apiculteur urbain à Saint-Denis. Et au micro de Nathalie Chevance, notre correspondante, c'est Gérard Jourdan, un apiculteur d'Oriol à côté de Marseille. Seine-Saint-Denis contre Marseille.
Nous sommes dans un village de 120 000 habitants qui s'appelle Saint-Denis, qui est au nord de Paris. Ce que l'on entend autour de nous, ce n'est pas tant les ruches que le bourdonnement de la ville, hein, qui est un cumul de voitures, d'humains, de camions, de vélos qui font moins de bruit et d'avions. Les abeilles d'ici ont, comme les abeilles de campagne, un rayon de butinage de 3 km autour d'elles. Ici, il n'y a pas d'autre choix que de la complexité à la fois urbaine et végétale. C'est à la fois la DDE qui plante des tilleuls le long d'un boulevard, un appui de fenêtre au cinquième étage, c'est l'arrière-cour d'un immeuble, un jardin, un rond-point, un espace vert, un parc. En fait, c'est une mosaïque de diversité. C'est quand, lorsqu'on fait une analyse pollinique, on trouve plus de 250 pollens différents dans un seul échantillon de miel.
Alors moi, je pose mes ruches déjà dans le massif des Calanques. Je monte un chemin pendant 2 km à peu près, qui monte, tout caillouteux. Et après, on arrive sur un sommet, et sur ce sommet, on domine toute la ville de Marseille. C'est-à-dire qu'à notre droite, ben, on voit les Stacks, en face, nous, on voit le Frioul, sur notre gauche, on voit la Bonne Mer, et voilà, donc on voit toute la ville, le stade de Vélodrome juste en dessous. C'est féerique. Alors, les abeilles là-haut, elles vont stocker du miel de bruyère, la petite bruyère rose. Alors, elles vont butiner du romarin. Ensuite, elles vont butiner en deuxième position du thym, beaucoup de thym. Donc, il y a un petit peu de chêne kermesse. Il y a du sumac et du ciste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ciste.
Ah, on y est dans la garrigue, là. Ça fait du bien. Une belle balade. Alors, la Seine-Saint-Denis, Saint-Denis en Ile-de-France contre les Calanques de Marseille. C'est notre PSGOM du miel. Alors, c'est vrai que la première chose à laquelle on pense, Yves Candebord, c'est la pollution. On se dit que le miel de Paris, de Saint-Denis, il va être pollué quand même.
Oui, par rapport à la pollution urbaine, c'est sûr que ça paraît surprenant de se dire on va manger un produit
un
qui est fait
de béton, hein, on l'appelle
béton,
comme ça,
comme il est appelé. Mais après, quand on goûte, voilà, quand on goûte les yeux fermés, qu'on ne sait pas ce qu'on a devant nous entre les Calanques et Paris, il y a une belle surprise, c'est que déjà les deux sont très bons.
Oui, et puis il faut dire que la salive des abeilles permet aussi de filtrer les particules fines et tout ça, que donc on se retrouve avec un miel qui n'est pas pollué autant qu'on pourrait le penser. Et à la campagne, tiens, Charlotte Langrand, c'est vrai qu'on parle beaucoup des pesticides, on parle beaucoup des insecticides. Qu'est-ce que ça donne le miel à la campagne ?
Oui, bon, on n'en parle pas pour rien. Hein. C'est sûr que les champs sont souvent traités avec des produits phytosanitaires, hein, les fameux néonicotinoïdes qui font très polémique, hein, parce que certains apiculteurs les accusent d'être responsables de la mort des abeilles. Après, ça ne veut pas forcément dire que tous les champs sont pollués, que
Bien
toutes
sûr.
Les abeilles en souffrent, mais c'est vrai que c'est un problème. Et le traitement là, systématique sur les cultures peut faire disparaître aussi certaines espèces de fleurs. Ouais, donc ça les affecte aussi d'une autre façon.
Ce qui est intéressant dans ça, en fin de compte, c'est se dire, c'est peut-être grâce au miel des villes qu'à la campagne,
on va faire des progrès.
On va faire des progrès.
Il faut des questions. Exactement. C'est exactement ça.
Il faut faire attention parce que les villes, avec la pollution qu'il peut y avoir, ils font mieux que nous.
C'est ça.
Donc il faudrait arrêter de polluer. Salir nos sols, voilà. De polluer nos sols,
bien sûr.
Pour avoir des produits de qualité. Ouais. Mais attention, il y a quand même beaucoup de gens, il ne faut pas faire une généralité.
Non plus. Absolument.
Il y a des gens, vraiment des apiculteurs et des paysans qui font des travaux d'exception.
Et les agriculteurs ne sont pas des empoisonneurs. Nous
bien
sommes d'accord.
Bien au contraire, bien au contraire.
Deuxième manche pour notre classico du miel. Alors le goût, quel goût ça a ? Eh bien ça va être décisif. On y retourne. Olivier Darnay à Saint-Denis et Gérard Jourdan dans les Calanques de Marseille.
On voit un miel ambré, à la fois liquide avec un début de cristallisation. Alors, là, on a un miel fruitier, fleur de printemps, avec en fait une dominante sur des cerisiers, sur des pommiers, sur des poiriers qu'on trouve à Saint-Denis dans le parc de la Légion d'honneur, qu'on trouve dans les jardins ouvriers du Fort de l'Est et de la Plaine. J'ai fait des recettes de canard céleste, un canard gras des Landes. Il est cuit à froid dans du miel et ensuite il est fumé dans une ruche. Les arômes du miel qui rentrent en vibration avec l'odeur un peu musquée du canard. Ouais.
Alors en bouche, c'est un miel plus doux que le fleur, que le millefleur traditionnel, que le garrigue. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus doux. Mais par contre, c'est un peu plus fort que le romarin.
Et on s'en sert pourquoi de ce miel-là ?
Pour les petits déjeuners. Après, vous pouvez vous en servir aussi pour cuisiner si vous voulez. Mais bon, c'est un peu péché, quoi. Il est rare. Il est rare parce que les emplacements, ils sont limités maintenant. La floraison est courte. Romarin, thym, ciste, c'est court. Après, on risque les incendies de forêt à partir du mois de juillet. Donc après, on ne fait plus rien.
C'est un miel d'exception.
C'est un miel d'exception. Les gens se l'arrachent, quoi.
Merci messieurs pour ces deux jolis miels et votre beau travail d'apiculteur. Alors nous sommes en train de les goûter ici à la table des bons vivants. Le miel béton, franchement, est très parfumé et il y a une petite note acidulée même, Yves Candebord.
Il y a une note acidulée et c'est vrai que pour cuisiner. Alors si je devais prendre un petit déjeuner, c'est vrai peut-être que j'irais sur les calanques. Mais moi qui suis cuisinier, quand même que la matière première, là, j'en ai besoin pour faire de la belle cuisine. J'irais plus sur le miel béton. Et alors par contre, le miel béton, je l'accompagnerais avec du cochon. Alors ce week-end, j'ai trouvé un petit livre, très agréable. Je suis tombé sur une recette, un carré de porc au miel, des choux de Bruxelles.
Oui.
Alors c'est un petit jeune qui commence, Laurent Mariotte, mieux manger toute l'année, chez
sympa.
Solar.
C'est sympa, c'est gentil.
Et le mariage, carré de porc.
Mais c'est vrai que ça marche bien.
Ce miel voilà, qui a une belle acidité et les choux de Bruxelles, c'était une petite merveille de saison.
C'est la fin de la saison des figues aussi, des petites figues rôties avec de la ricotta à l'intérieur et des zestes d'orange. Ça marche, ça, Charlotte.
Celui des Calanques, je l'aime bien, moi. Il est rond, je le mettrais bien avec un petit peu de brouche, là, et puis quelques figues, effectivement, ce serait pas mal.
Ouais, c'est demain. Alors nous, en tout cas, là, c'est quoi, match nul, on va dire
Match nul.
Allez, voilà, on est comme ça. C'est comme à l'école des fans, tout le monde a gagné. Chaque samedi, nous faisons le tour de la planète cuisine. Fanny Rascle est en route pour son journal. Ce sera juste après ça. Bon samedi matin.
La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
De la fourche à la fourchette, nous sommes à la recherche des dernières informations concernant notre alimentation. Fanny Rascle, ça tombe bien, retracer l'actualité culinaire de cette semaine. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien.
Bonjour. Il s'en est passé des choses cette semaine, Fanny.
Semaine chargée.
Alors on y va. Un nouveau logo pour le foie gras français, les mésaventures d'un chef avec l'URSSAF et une petite balade sur les terres de Régis Marcon. C'est le menu du journal de la cuisine de Fanny. Les bières très alcoolisées vont-elles être bientôt surtaxées ?
C'est ce que propose un amendement au budget de la Sécurité sociale qui a été déposé cette semaine. Alors ces bières très alcoolisées, ce sont celles qui dépassent largement les 11 degrés. Elles sont boostées en sucre et en levure pour augmenter ce taux d'alcool. C'est simple, une canette de 50 centilitres, c'est l'équivalent d'un litre de vin. Évidemment dangereux pour la santé. Écoutez le député Modem, il est aussi médecin, Cyril Isaac Sibyl. Il est au micro d'Adrien Becht.
Ces bières à 16 degrés, c'est un scandale. Ces bières sont à destination des jeunes pour faire en sorte que plus ils boivent tôt et plus ils boivent fort, plus ils deviendront addicts.
Exactement, ça c'est vraiment dégueulasse parce que c'est du marketing. On est en train de rendre nos enfants dépendants à l'alcool quand on fait des mélanges aussi de pommes et de vodka. Ça me rend dingue ça, ces trucs-là, j'ai bien raison. Le foie gras s'offre un nouveau logo, Fanny.
Foie gras de France avec deux palmipèdes dorés et un drapeau bleu-blanc-rouge. C'est une initiative des professionnels du secteur, soutenue par 10 000 chefs. Pour avoir ce logo, il faut des animaux élevés, engraissés et transformés en France, quelle que soit la région. L'objectif, c'est de redonner un peu de vigueur à l'exportation, à une filière qui a beaucoup souffert de la grippe aviaire ces dernières années. Le foie gras français, il doit encore séduire la Chine ou le Japon, par exemple.
Encore du boulot, alors. Et puis, un chef, écoutez bien, doit déclarer ce qu'il mange dans son propre restaurant.
C'est ce qu'a appris Arnaud Bloquel à ses dépens. Alors, quand l'inspecteur de l'URSSAF lui a demandé à ce chef qui est installé à la Guadeloupe où il mangeait le midi, il a répondu « dans mon restaurant, bien sûr ». Et l'URSSAF a sorti la calculette. Le prix moyen d'un couvert à sa table, c'est 107 euros. Multiplié par 3 ans, ça fait 14 000 euros à rattraper. Le chef a expliqué que les langoustines, c'était plutôt pour les clients et que lui, il mangeait surtout des pâtes, au beurre, au déjeuner. L'URSSAF n'en démord pas, mais attention aux dernières nouvelles. Le ministre Gérald Darmanin a promis que son cas serait reconsidéré.
Mais c'est n'importe quoi. On sait bien, Yves Candebord, que les chefs cuisiniers, vous vous faites tous un menu avec le personnel juste avant et qu'on ne mange pas les plats qu'on va retrouver à la carte du menu étoilé.
Oui, oui, totalement. C'est sûr que c'est une aberration quand il dit qu'il mange une langoustine. Mais après, c'est vrai que tous les repas qui sont servis, on est considéré personnel et c'est des repas qu'on est dans l'obligation de déclarer.
Pour votre cerise sur le gâteau, Fanny, vous nous emmenez en Haute-Loire, plus précisément du côté de Saint-Bonnet-le-Froid, la capitale du champignon.
Oui, j'ai une petite confidence. J'ai la chance immense d'avoir passé tous mes étés en vacances là-haut, à 1120 mètres d'altitude, au milieu de cette nature un peu brute, mais vraiment splendide. Et sur la place du village, après avoir acheté des fromages chez Monique et des légumes chez Zézé, on croisait souvent le grand Régis Marcon. 3 étoiles, mais bien plus que ça, il est devenu l'âme de Saint-Bonnet-le-Froid.
Vous avez raison, j'y suis allé plusieurs fois aussi. C'est magnifique comme endroit. Et cette âme, on peut la sentir vibrer tous les ans pendant la fête des champignons, Régis Marcon.
Oui, c'est le week-end prochain, les 2 et 3 novembre, mais je prends un peu d'avance parce qu'il y a un peu de route pour aller jusqu'à Saint-Bonnet. Promis, ça vaut la peine. Le matin, le traditionnel marché aux champignons secs pour acheter des cèpes et transformer vos gratins dauphinois tout l'hiver. Et puis toute la journée, des concours de cuisine, des démonstrations de chefs, des expositions, la fabrication d'une tarte géante à la châtaigne, tiens.
Une spécialité à goûter, tiens, pour mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs.
La soupe aux champignons, bien sûr, préparée par tous les chefs du village, Jacques et Régis Marcon en tête. Pour 4 euros le bol, ça devrait vous réchauffer sérieusement. Parce que oui, début novembre, à Saint-Bonnet-le-Froid, il peut faire un peu frisquet.
Oui, il faut prévoir la polaire, c'est vrai. Mais quel bel environnement. Et puis c'est vrai que c'est le royaume des champignons. Merci Fanny. Et à bientôt.
À très vite.
Ce dimanche, en fête Diwali en Inde, une fête très populaire dans le monde hindou. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur la cuisine indienne. Et notre invitée, c'est Bina Paradin, notre guide aujourd'hui. Elle est originaire du Kerala sur la côte sud-ouest du pays. Auteur de plusieurs livres de recettes indiennes. Vous avez même créé une gamme de produits d'épicerie qui s'appelle Bendi. Bonjour Bina Paradin.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Bonjour.
C'est quoi Diwali alors?
Diwali, c'est une grande fête hindouiste. Qui a eu lieu effectivement le 27 octobre cette année. C'est une fête qui dure plusieurs jours et qui est très variable d'une région à l'autre de l'Inde, puisque c'est plus ou moins fêté. Certaines régions le fêtent avec beaucoup de panache, comme dans le nord de l'Inde, et dans le sud de l'Inde, dont je suis originaire, c'est une fête qui est plus mineure, on va dire.
Alors c'est une fête qui célèbre la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Ça dure plusieurs jours, on prie, on échange des cadeaux, mais on va parler franchement, en cuisine, c'est surtout la fête du sucre, non?
C'est une grande fête du sucre, mais comme souvent les fêtes hindouistes, où on va faire des plateaux de pâtisserie que l'on va à la fois mettre sur son autel au moment de la prière et ensuite déguster en famille.
Quel type de sucre on utilise là-bas? Ce n'est pas le même sucre blanc que chez nous, le sucre de betterave par exemple.
Les recettes traditionnelles indiennes, et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de sucres modernes qui ont été introduits, mais les recettes traditionnelles font appel à du jaggery, c'est-à-dire de la mélasse de sucre de canne, ou ça peut être de la mélasse de sucre de palme.
D'accord. Alors, vous en avez apporté quelques-unes des pâtisseries parce qu'on connaît bien la cuisine indienne côté salé, mais on la connaît moins bien côté sucré. Que sont ces belles pâtisseries que vous nous avez apportées?
Alors, je vous ai apporté à déguster quelque chose que ma maman a eu l'amabilité de me faire, qui sont des laddous. Les laddous, ce sont vraiment l'une des pâtisseries classiques qu'on trouve sur le plateau de Diwali. Et c'est une pâtisserie à base de farine de pois chiche.
Ah, des légumineuses, on y revient, voilà. Ces fameuses légumineuses qui nous veulent du bien.
La pâtisserie indienne utilise des ingrédients qui peuvent être un peu déroutants pour les Français, puisque ce n'est pas forcément du blé, du beurre, du sucre.
Hein.
C'est plutôt de la farine de pois chiche, de la pâte de lait, du beurre, qui est sous forme de ghee, donc transformé, on en reparlera, je
alors,
pense.
Alors, le ghee, c'est l'équivalent de notre beurre clarifié. Hein. Dans ce dessert, donc, il y a du pois chiche, hein.
Voilà,
il y a
farine
du ghee,
de pois chiche,
il y a de la cardamone aussi,
la cardamone,
ah, oui,
il y a du safran, qui donne à la fois le goût et la couleur
orangée,
jaune.
Oui.
Des fruits secs, il y a du raisin sec, des noix de cajou et un peu de sucre, évidemment.
Oui, c'est riche. Ouais. On m'a parlé d'un autre dessert indien qui s'appelle le barfi. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Le barfi, c'est un dessert qui est à base de lait concentré. Donc traditionnellement, ça se faisait avec le koya, qui est une technique indienne, dans laquelle on va cuire le lait pendant assez longtemps, peut-être une heure, jusqu'à qu'il se transforme en une pâte très épaisse qui va faire la base du gâteau. Aujourd'hui, les gens font leur barfi à base de lait concentré et de poudre de lait. Ce ne sont pas forcément des ingrédients que j'adore. Donc, oui. J'aime beaucoup la version traditionnelle, mais qu'on ne trouve quasiment plus.
Oui, c'est ça. Eh bien, merci. C'est très précis, Bina Paradin. Restez avec nous. On continue de parler de cuisine indienne. Côté salé, dans un instant, on va faire un petit tour de l'Inde, d'écurie, et on n'aura pas assez de l'émission pour faire le tour, vous allez entendre. D'écurie, des dalles, des lentilles, des biryani. A tout de suite, on revient.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Avec plus de 3 millions de kilomètres carrés et une population qui dépasse le milliard, l'Inde est un pays aux multiples cuisines. Alors pour voyager grâce à des recettes aussi parfumées que variées, je reçois Bina Paradin ce samedi matin, auteure de livres de cuisine et créatrice de Bendi, une gamme de produits secs qui donne le goût de la cuisine indienne. Alors on commence par le dessert aujourd'hui à la table des bons vivants avec ce ladou, hein, cette boulette de pois chiche que vous nous avez faite avec du sucre, de la cardamome, du safran. C'est très parfumé, il y a ce petit côté justement frais apporté par la cardamome, mais on le disait avec Yves, c'est très sucré comme dessert, hein, la pâtisserie.
En Inde, il y a assez peu de pâtisseries, on n'en mange pas du tout au quotidien, c'est vraiment la pâtisserie de fête ou celle qu'on va manger une fois de temps en temps, et c'est vrai qu'elle a tendance à être assez sucrée.
Moi, je trouve que ce qui est magique dans la cuisine indienne, c'est le goût. Voilà. Je trouve qu'elle se rapproche quelque part culturellement de la cuisine française, parce que c'est une cuisine qui ne laisse pas indifférente. Elle est puissante, elle est en saveur.
Alors l'Inde n'a pas une seule cuisine, hein, Bina, mais des cuisines selon les différentes régions. Entre le nord et le sud, évidemment, on ne mange pas la même chose.
L'Inde, c'est mosaïque de cuisine, puisqu'il y a des cuisines régionales qui sont très fortes, puisque effectivement l'Inde est un très grand pays, c'est un sous-continent, et que finalement, entre le nord et le sud, il y a autant de distance qu'entre l'Espagne et la Suède, et donc le même type de variété de cuisine. Et d'autre part, en Inde, il y a aussi une mosaïque qui est liée aux communautés. Chaque religion va avoir sa cuisine. Donc c'est vraiment l'addition de ces communautés, de ces régions, qui fait qu'on va se retrouver avec des dizaines, des centaines de cuisines différentes.
Par exemple, en France, nous, le plat emblématique de la cuisine indienne, c'est le curry, mais il y a quantité de curry.
Il y a autant de curry, je dirais, que de cuisiniers, quasiment, puisque le curry, c'est un nom générique pour dire un plat en sauce d'accompagnement qui va venir alimenter votre quotidien. Mais c'est surtout un plat qui peut avoir des bases très différentes. Il peut être à base de lait de coco dans le sud ou plutôt de tomates ou de crème d'amande dans le nord. Les épices qu'on va y mettre, le mélange d'épices va fortement dépendre de la région dans laquelle vous êtes. Et les ingrédients principaux qu'on va y mettre, que ce soit des légumes, des légumineuses, de la viande ou du poisson, vont aussi dépendre de est-ce que vous mangez, par exemple, de la viande.
Et puis la part belle est faite aussi aux recettes et aux curry végétariens en Inde. Hein.
Le végétal est la base de l'assiette en Inde, même quand on n'est pas végétarien, puisque l'usage de la viande ou du poisson, c'est vraiment de dire on va en mettre un petit morceau de façon quasiment condimentaire par rapport au standard français. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à évoluer aujourd'hui, puisque les gens considèrent que mettre beaucoup de viande, beaucoup de poisson dans leur assiette est un signe de richesse.
Ça, c'est pas bien.
Non,
ça, faut leur dire qu'ils ne fassent pas la même bêtise qu'on a fait nous. Plutôt rester sur vos bases, c'est beaucoup plus équilibré.
Je partage complètement.
On connaît le garam masala, par exemple, en France. Rappelez-nous, tiens, les épices qui composent le garam masala, parce que les curry, effectivement, sont des mélanges d'épices.
Les masalas, qui sont les mélanges d'épices, sont de toute variété. Donc le garam masala, qui est plutôt un mélange originaire du nord de l'Inde, c'est garam, ça veut dire chaud. Donc c'est un mélange un peu chaud. La chaleur dans ce mélange-là, il va être apportée par le poivre, qui est la base du mélange. Et on va mettre ensuite un certain nombre d'épices qui peuvent être dans des proportions et même parfois disparaître selon le cuisinier qui a décidé de faire son garam masala. Mais moi, dans le mien, je mets de la cannelle, de la cardamome, du girofle, de la coriandre, du cumin, des graines de fenouil, du poivre et de la muscade.
C'est riche, c'est très complexe, c'est ça ouais. qu'on aime. Est-ce ouais. que vous aimez le nan fromage, Yves Condebord?
Oui, j'aime ça. Oui,
Charlotte Langrand.
Oui, j'aime beaucoup ça.
Bina. Joker. Parce que non, mais ça, c'est un truc que nous, on a importé de la cuisine indienne, mais ça existe en Inde quand même, le nan fromage.
Pas du tout, le nan fromage est une invention parisienne.
Ça, c'est génial, parce qu'il y avait une légende même qui racontait qu'en Inde, on mangeait du nan fromage parce qu'il y avait une usine de vache qui rit juste à côté et qu'on mettait de la vache qui rit dans le nan fromage.
Non, 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 c'est vraiment une recette qui a fait, on va dire, un aller-retour, hein, puisque c'est une recette qui aurait été tout à fait inventé en France, avec un cuisinier qui a eu l'idée de mettre dans des nanes du fromage fondu. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de... Ce n'était pas dans la tradition indienne, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de restaurants, et en particulier dans des restaurants créatifs, des nanes fromage. Et j'ai mangé récemment à Delhi, dans un très bon restaurant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Indian Accent, des nanes au Stilton, qui étaient absolument dingues.
Le Stilton, le fromage anglais absolument. Ouais. Ouais, c'est amusant, ça. Les légumineuses sont très présentes aussi dans la cuisine indienne. Et là, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de l'importance de diversifier notre alimentation, de manger moins de viande rouge et de laisser justement une place importante aux légumineuses dans nos assiettes. On va retrouver des lentilles, des pois cassés, des pois chiches dans la cuisine indienne.
Complètement, puisque comme on a un usage très faible de la protéine animale, viande ou poisson, bah de fait, la protéine du quotidien, c'est la protéine qui est apportée par la légumineuse et par son association avec la céréale qui se fait naturellement dans l'assiette. Et on va utiliser des pois chiches, des lentilles de toutes sortes. Après, il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas forcément en France, que moi j'aime particulièrement. J'aime particulièrement, par exemple, haricots. Mongo, qui est un petit haricot très protéiné.
Ce qu'on appelle les pousses de soja à tort.
Exactement,
ici en
ce qu'on
France,
appelle les pousses de soja à tort. Et chez Bindi, nous avons récemment travaillé avec des producteurs dans le sud-ouest de la France pour faire pousser du haricot mongo dans le sud-ouest. Et donc, on propose une nouvelle recette avec des haricots mongo français.
Alors, si notre émission vous donne envie de pratiquer la cuisine indienne, vous allez entendre qu'elle est à la portée de tout le monde. On va vous aider à bien acheter vos épices et puis à faire votre curry à la maison. C'est possible, Sabina,
hein ? Complètement.
Eh ben voilà, c'est Bina Paradin qui le dit. On vous dit tout juste après ça. Merci d'être avec nous.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Avant de partager le plat du jour avec le grand Alain Passard qui est en train d'arriver, nous voyageons dans la cuisine indienne avec Bina Paradin. Bina, vous avez écrit mes recettes indiennes, cuisine végétarienne indienne. Vous avez aussi présenté des émissions sur Cuisine TV. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et vous avez même créé une gamme d'épices avec Olivier Rollinger. Faire ces mélanges d'épices à la maison, c'est possible pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement en train de cuisiner et qui veulent se faire un curry ce week-end ou la semaine qui arrive. On peut le faire, notre mélange d'épices à la maison.
Oui, bien sûr, on peut faire son propre mélange. Donc, pour faire les mélanges d'épices et avoir une poudre d'épices qui soit à l'optimum du parfum, il faut torréfier un petit peu ses épices. Donc, on va mettre son mélange d'épices. Donc, le mélange que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, le garam masala, vous allez rassembler tous les ingrédients dont vous avez besoin.
Donc, redites, il y a du
cannelle,
poivre, gingembre,
girofle, graines de coriandre, graines de cumin, graines de fenouil, poivre noir et muscade. Et
on met ça dans la poêle à sec ou avec une huile ?
Surtout pas avec de l'huile, à sec. Et vous allez le faire torréfier,
pour que les saveurs ressortent. Ouais.
Il faut vraiment attendre, je ne sais pas, 5-6 minutes jusqu'à que le parfum des épices soit... vous allez voir au nez qu'il y a vraiment un parfum qui va devenir de plus en plus dense. Et c'est à ce moment-là où on arrête la torréfaction. Il ne faut surtout pas que ça soit brûlé. On ne met surtout pas de matière grasse. On fait refroidir son mélange. Et ensuite, on le met dans un petit moulin à épices. Alors, un moulin à café du commerce détourné à cet usage marche très bien. Et on va moudre sa poudre pour avoir un garam masala fait maison, délicieux.
Alors ensuite, on va l'allonger avec du lait de coco, qui peut être un peu gras quand même, le lait de coco. Parfois, il faut bien doser parce que ça peut être un peu indigeste quand on en met trop, non, du lait de coco dans le curry ?
Non, pas nécessairement. C'est quand même un ingrédient qui, certes, contient des graisses saturées, mais qui contient aussi beaucoup de choses très bonnes pour la santé. Donc, on peut effectivement allonger son lait de coco si on a un lait de coco très
dense,
très gras.
Avec un bouillon ?
C'est rarement le cas. Non, juste avec de l'eau.
Juste avec de l'eau, comme
ça
s'allonge.
Les laits de coco qu'on trouve en boîte dans le commerce sont quand même assez bien dosés.
Et mes épices, si je fais un curry d'agneau ou un curry de volaille, je les mets à quel moment? Après avoir fait revenir ma volaille, ma viande ou avant?
Ça dépend de comment vous allez travailler vos épices. Est-ce que vous allez mettre des épices brutes dans votre plat ou des épices en poudre? Donc en général, pour faire un curry, on va d'abord faire revenir une garniture aromatique avec des oignons, ça peut être du gingembre, de l'ail, un petit bout de piment. Une fois que cette première préparation est un peu fondue dans votre casserole, vous allez rajouter, si vous rajoutez des épices brutes, vous les rajoutez à ce moment-là, vous les faites encore revenir dans la matière grasse. Et puis ensuite, vous allez mettre le lait de coco, les légumes, tous les autres ingrédients qui doivent aller dans votre curry. Et si jamais vous travaillez plutôt sur de la poudre, vous ne les mettez surtout pas avec l'oignon, parce que ça aura tendance à brûler la poudre. Vous les mettez quand vous avez déjà mis le liquide.
C'est super. Moi, ce que j'aime avec le curry, c'est que c'est un plat voyageur qu'on peut faire facilement. Quand j'étais étudiant, moi, c'est un des premiers plats que j'ai fait, justement, le curry pour inviter des copains, parce qu'il y a ce côté rassembleur, et c'est facile, en fait. Hein,
oui,
on ne se rate pas.
Je pense qu'il y a aussi un fait là, par rapport à l'odorat. Quoi. C'est vrai que les épices, c'est des odeurs qui font voyager naturellement. Donc c'est vrai que quand on commence à cuisiner, qu'on est des fois un peu... on ne sait pas trop où aller. L'avantage d'utiliser les épices, c'est vrai que de suite...
Ça rassure.
De suite, c'est rassurant.
C'est vrai.
C'est rassurant.
Ça donne envie.
Voyage. Non, mais ça voyage. Ça embaume l'appartement. Quand votre copine, quand vous ouvrez, elle ouvre le studio,
oh, ça sent bon.
Rentre,
ça
sent bon. Vous avez déjà gagné, Laurent. C'est pour ça qu'on aime ça.
Bina, vous utilisez aussi les épices dans des desserts, dans une mousse au chocolat, par exemple?
Alors oui, en effet, j'aime beaucoup détourner les mélanges d'épices indiens pour en faire d'autres usages que de la cuisine indienne. Et le garam masala, dont on vient de parler, marche très bien dans la mousse au chocolat.
Ah, c'est sympa ça. Ah oui, ça met du peps dans la mousse au chocolat.
Exactement.
Eh ben merci Bina Paradin pour ce cours sur la cuisine indienne. Et on peut retrouver vos préparations avec cette marque qui s'appelle Bindi. Merci Bina d'être venue à la table des bons vivants.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Avant midi, l'ami Jean-Luc Petit-Renaud nous salue. Vous le savez, il s'est installé aujourd'hui à l'Assiette à Paris, dans le 14e arrondissement. C'est le restaurant du chef David Radgeber. Un chef qui nous régale d'une belle cuisine traditionnelle et bourgeoise, bien rassurante. Alors vous pensez bien que ça a plu à Jean-Luc. Jean-Luc va revenir sur un classique de notre cuisine, le pâté en croûte, marbré, généreux. Le camarade Jean-Luc fait le tour du pâté avec ses adresses préférées.
Bonjour les bons camarades, j'espère que ça va bien, surtout quand on se retrouve presque au cœur d'un musée pour apercevoir le beau pâté en croûte. C'est une pièce artistique, un pâté en croûte. Imaginez donc un personnage allongé, une momie, et à la place du nombril, il y aurait cette petite ouverture qui s'appelle la cheminée, par laquelle on fait passer la gelée liquide qui va venir figer tout ça à l'intérieur de cette pâte. Parce que tout rentre à l'intérieur de ce pâté en croûte. Alors il est amusant à regarder comme ça, il est amusant aussi à regarder à la sortie du four, parce que son moule se déplie comme un mécano en fait. On enlève 4 chevilles et les pans des murs du mécano tombent, ping, pang, paf, boum, et on trouve ici devant soi le pâté en croûte. Il peut être merveilleux comme du côté de Saint-Valahougue dans la Manche, avec un canard à l'orange à l'intérieur. Du côté de Lyon aussi, on le mange chez Daniel et Denis, chez Vianney aussi, à la volaille de Bresse avec du foie gras, le pâté en croûte à la volaille et légumes verts, avec les petits pois, les côtes de blettes, les fèves, les haricots verts. À chaque fois qu'on secoue l'arbre à pâté en croûte, il y en a un qui arrive et qui est différent de son voisin. Il y a autant de pâté en croûte que de mains, il y a autant de pâté en croûte que de cuisiniers. C'est un plat d'humeur, le pâté en croûte. Allez, quand je vois cette petite gelée flageolante comme ça au cœur de l'assiette.
Eh oui, un plat qui vous a mis de bonne humeur, Jean-Luc. Ah oui, il donne envie.
Ah,
c'est le plus grand conteur de la gastronomie française, Jean-Luc Petit-Renaud, que vous retrouvez tous les samedis à la table des bons vivants. Une belle adresse, tiens, pour manger un bon pâté en croûte, Yves. Ah,
une belle adresse pour manger un pâté en croûte. Je vais rester parisien, je vais dire le repère de cartouches, allez.
Ah, c'est bien.
Classique, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon.
Charlotte Langrand.
Alors moi, je vais vous dire l'eau des vignes à Fuissé, en Bourgogne. Il y a le chef Sébastien Chambru qui fait un pâté croulpe. C'est un pâté.
Croulpe ? C'est quoi ?
Un pâté en croûte avec du poulpe.
Ah, oh, mais il y a du cochon quand même.
Ah oui,
ah oui.
Poulpe et cochon. C'est encore de la terre-mère.
Encore de la terre-mère, voilà. Il y a aussi Jérémy Delors de la ferme du poulet à Villefranche-sur-Saône qui a été champion du monde de pâté en croûte en 2016. Daniel Gobet, charcutier dans l'Ain à Divonne-les-Bains, champion du monde de pâté en croûte 2018. Mes hommages, Daniel Gobet. Voilà, faites le tour des beaux pâtés en croûte de votre région. C'est le week-end, profitons-en. Allez, ne bougez pas. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire en nous écoutant. Continue de se régaler. Alain Passard, vous savez, le chef qui murmure à l'oreille des légumes, sera notre invité juste après ça. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Un match PSG-OM du miel, un voyage dans la cuisine indienne, de bonnes adresses. Depuis 11h, on essaye de bien vous recevoir à la table des bons vivants. Et ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Il a commencé par pousser la chansonnette de la cuisine dans sa Bretagne natale. Il peaufine sa partition dans les grandes brigades parisiennes. En 86, il reprend le restaurant de son mentor, Alain Sandrin, et le rebaptise l'Arpège. On se bouscule pour goûter ses volailles, ses bœufs et autres cochons rôtis. Et hop, à la fin des années 90, il décide de se consacrer à une cuisine légumière. Depuis, ses tubes gastronomiques se comptent par centaines. Le maestro Alain Passard est notre invité. Bonjour Alain.
Bonjour à tous.
Ravi de vous recevoir, Alain Passard, l'homme qui a fait du légume un grand cru, et bien avant que ce soit la mode de remettre le végétal dans nos assiettes. Hein.
Ah bah c'est, je crois que c'est important de considérer une saison comme un rendez-vous.
Yves important. Candebord, qui est en face de vous, ouais. Un de vos camarades collègues, me disait, il nous a fait du bien, Alain Passard, parce que avec justement ce côté volontaire de vouloir faire cette place aux légumes qui était un petit peu l'oublié de la cuisine, ouais. il a ouvert une brèche, comme vous dites.
Il nous a, sauf au départ, il nous a fait du bien parce qu'il a fait ce qu'il avait envie. Et ça, déjà, c'était vachement important.
Et oui, après, parce que vous aviez 3 étoiles voilà. Avec une carte autour de l'art de la rôtisserie, ouais, hein, ouais, parce que vous êtes un rôtisseur, on va en reparler, et vous avez tout arrêté.
Et c'est vrai que dans notre éducation gastronomique, le légume avait une part, je dirais, un peu de côté, c'était simplement l'accompagnement. Et Alain Passard a mis le légume au centre d'assiette, et surtout a fait voir qu'en mangeant des légumes, on pouvait avoir des émotions comme quand on mange un bar, comme quand on mange un lièvre, comme quand on mange une côte de bœuf.
C'est ça, vous allez rôtir un céleri, vous allez cuire une betterave en croûte de sel. Mais vous êtes un rôtisseur né, Alain Passard. Et je vous suis sur Instagram et j'ai l'impression que cette flamme vous démange. Là, vous faites cuire des trains de côte, des volailles rôties. C'est toujours là, cette envie besoin de cuire des viandes.
Oui, absolument. Bah, j'ai cette relation avec le feu, avec la flamme que ma grand-mère avait, quoi, et qu'elle m'a passée. Et puis c'est vrai que j'aime, parce que je trouve que le feu, c'est une façon pour le cuisinier de sculpter un objet presque. Hein. C'est jouer avec la flamme. On pourrait presque dire dompter le feu, l'apprivoiser pour justement éviter la brûlure.
On pourrait presque conseiller à tous les cuisiniers qui ont la chance d'avoir une cuisinière à bois à côté d'eux, de commencer et de s'initier à la cuisine avec ça. Hein.
Bah, c'est ce qui est le plus beau, parce que donc, ce sont les 5 sens. Hein. Donc là, on n'a pas de thermostat, donc là c'est... C'est le visuel, hein, c'est le chant du feu, c'est l'oreille, hein, puis la main, quoi, le geste. Hein, et c'est vrai que ça fait énormément de bien parce que on fait des erreurs. Et puis c'est avec ces erreurs qu'on corrige, qu'on s'enrichit. Hein, et qu'on arrive un jour à rôtir parfaitement un poulet dans un four à bois parce que on a compris.
Quel est votre goût de la semaine, Alain Passard?
Ah, le goût de la semaine, bah, c'est les premières boules de céleri rave là, qui sont sorties de terre, là, magnifiques, avec tous ces radicelles comme ça qui sont en dessous, là, qui ont permis de nourrir la boule. Quoi. C'est impensable. Là. On ne s'imagine pas comment un céleri rave peut épuiser le sol.
Ah, il vous plaît le céleri rave,
hein. Ah, il me plaît.
Et vous inspire parce que vous avez fait quand même une recette qui a été reprise et copiée depuis par de nombreux chefs. C'est votre fameux céleri risotto.
Ah oui, le céleri risotto.
Taillé en petits grains, en petits dés, et on en fait un risotto de céleri rave.
Non, mais c'est vrai que c'est une boule magique. Hein. Y a à la fois une saveur, bien sûr, il y a un parfum, il y a une couleur. Ce côté ivoire du céleri rave, c'est magnifique, quoi. C'est très inspirant et puis bon, on peut en faire plein de choses. En crudité également.
En velouté avec une belle moutarde. À chaque fois que je fais un velouté, je pense à vous. C'est vous qui m'avez donné ce truc.
Mais non.
Si, si, bah une moutarde, une belle cuillère de moutarde dans le velouté de céleri.
Ouais. Hein. Qu'on retrouve, l'idée était partie du céleri rémoulade, où on met de la moutarde. Et donc, je l'ai transposé sur ce petit velouté. Cette petite pointe d'acidité, c'est vrai que c'est plaisant.
Quelle place tient le poisson dans votre cuisine, Alain Passard?
Ah, une place très importante. Hein, mes origines sont quand même un petit peu d'Ille-et-Vilaine, hein, donc Saint-Malo. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est, en fin de compte, j'ai mis au service du légume tout mon savoir-faire de la cuisine animale.
C'est ça, exactement. Alors, vous allez encore nous en parler jusqu'à midi et demi. C'est l'heure du poisson avec vous, Charlotte Langrand, qu'on peut lire dans le journal du dimanche, chaque dimanche, bien entendu. Vous êtes à la table des bons vivants de temps en temps avec nous le samedi. Et vous allez nous parler, Charlotte, des poissons de saison, parce que pour respecter la mer, il faut aussi respecter les saisons. Mais ce n'est pas toujours facile.
Non, parce que les poissons, ce n'est pas des fruits et légumes. Hein. Il n'y aurait pas une espèce qui disparaîtrait l'hiver pour réapparaître au printemps. Hein. Ils sont là tout le temps. Et c'est justement pour ça qui sont menacées par la pêche dite intensive. Hein. Donc les gros, ces gros bateaux résistants qui peuvent sortir en mer tous les jours, quelle que soit la météo. Et pour prélever le maximum de poissons dans la mer, mais avec des méthodes de pêche parfois, souvent,
ah bah oui.
même
On l'a encore vu cette semaine avec un gros chalut du côté de Boulogne-sur-Mer qui peut pêcher 240 tonnes de poissons en une journée. On imagine les dégâts. C'est dévastateur.
Oui, c'est dévastateur. À la fois pour les stocks de poissons hein, qui baissent et puis qui menacent les espèces, mais aussi pour les écosystèmes, parce que ces gros chaluts-là, certains, ils raclent les fonds de mer et tout ce qui se trouve avec, en fait. Les poissons qu'on ne voulait pas pêcher, les étoiles de mer, ouais. les algues, parfois même des dauphins.
Ouais, c'est donc, terrible. Alors, heureusement, Charlotte, quand même, certaines mesures politiques réglementent ce phénomène.
Oui, alors c'est là qu'on a entendu parler des saisons marines, ce qui était en fait des saisons légales. Par exemple, on a en ce moment le retour de la pêche de la coquille Saint-Jacques, qui était interdite pendant sa reproduction, en septembre en gros, pour la laisser un peu tranquille, un peu souffler, pour que la nature reprenne un petit peu ses droits. Mais ça n'empêche pas que dans certains restaurants, l'été, et il y a des Saint-Jacques à la carte.
Bah oui, bah, voilà. Elles viennent de où alors ces Saint-Jacques-là?
Du coup, c'est des Saint-Jacques importés de l'autre bout de la
des
planète.
Des États-Unis, d'Asie. Oui.
Ou alors c'est carrément, de temps en temps, des gros pétoncles qu'on fait passer pour des Saint-Jacques.
Ah oui, ça n'a rien à voir. La Saint-Jacques, c'est la Pectène Maximus, hein, faut lire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que consommateurs, alors?
Finalement, nous, le moyen pour nous, mangeurs, de lutter contre la pêche intensive, c'est d'acheter des produits de la pêche dite durable, qui, donc, au lieu de parler de saison, garantit plutôt des techniques de pêche plus sélectives. Donc, elles sont faites avec des petits pêcheurs qui pratiquent une petite pêche côtière avec des bateaux à taille humaine. Et puis, par exemple, des filets qui laissent s'échapper les poissons trop jeunes ou alors carrément qui pêchent à la ligne, au casier, à pied.
Oui, ça existe.
Ou en plongée.
Oui. Ouais. Et Charles Guiriec, le fondateur de poiscaille.fr, c'est un site qui propose des casiers de la mer à livrer en direct des petits pêcheurs. Ouais. Lui, propose des solutions concrètes. Hein.
Oui, pour lui, alors c'est simple. Hein. Si on veut commencer par quelque chose, c'est arrêter d'acheter le trio infernal saumon, cabillaud, crevette, hein, grosse gambasse.
Ça, c'est vrai. Saumon, cabillaud, crevette.
Voilà, souvent d'élevage, d'importation lointaine, de méthodes de pêche douteuses. Donc on ne les pleure pas, hein, puis parce qu'on peut les remplacer par les très nombreuses autres espèces de poissons qui ont une mauvaise réputation simplement parce qu'ils sont plus fragiles, mais c'est injuste parce qu'en fait ils sont très bons. Les maquereaux, les chinchards, les mulets et aussi les coquillages, hein, les moules, les huîtres non triploïdes, les coques, réhabilitons-les.
Eh bien nous sommes d'accord, merci Charlotte, c'était clair et précis. Vous êtes d'accord Alain Passard avec tout ça,
hein? Bien sûr, c'est ce calendrier, il faut le retrouver, il faut le respecter. On parlait tout à l'heure de rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un rendez-vous? Quand vous n'avez pas touché une tomate depuis un an, le plaisir que vous avez de la retrouver.
Et le beau rendez-vous d'un maquereau aussi, hein, au printemps quand il débarque. Et ben voilà,
c'est vrai.
Bientôt l'heure du plat du jour, Alain Passard, un plat réalisé ce midi par un de vos anciens seconds. Tiens, il n'est pas au courant, il se demande. Ce sera juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite sur Europe 1.
C'est moins cher dans le marché.
Allez, 3 plus 1 gratuit, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Midi passé, nous partageons le déjeuner, nous partageons la table avec le chef Alain Passard. Alain Passard, il y a un mot qui est très important pour vous, vous l'avez d'ailleurs dit dès le début de cette émission quand vous êtes arrivé. C'est la main. La main, c'est vraiment le commencement du geste de cuisinier. Hein. Quand vous parlez d'un chef, vous dites « Ah, Yves Candebord, il a une très belle main ».
Oui.
Elle est usée, mais elle est belle. Hein.
Oui, non, mais quand il parle de la main, c'est de la manière de cuisiner, de faire travailler.
C'est sûr. Et je pense que la main ne vieillit pas. Au contraire, elle devient de plus en plus belle avec le temps. Hein, que ce soit en peinture, en sculpture, en musique. Je trouve que c'est un petit peu là où on voit un petit peu un bon cuisinier. Quoi. Hein, quand tu as un jeune chef qui rentre dans ta cuisine, c'est un petit peu ce que je vois en premier, quoi, la façon dont il va prendre les choses, la façon dont il va poser les choses. Hein, et une belle main, c'est agréable. C'est ce qui fait la différence entre nous, les grands chefs. Hein. Et également
pas brusque. Hein, chez vous, j'ai eu la chance de vous voir cuisiner plusieurs fois dans les cuisines de l'Arpège.
Oui.
On s'appelle monsieur, on s'appelle madame, et on se respecte. Et c'est assez délicat. Hein.
Oui, non, mais je pense que les cinq sens doivent être... c'est une école, hein, l'école du geste, le visuel. Travailler son visuel, c'est important. Regarder le fond de la casserole, c'est là où tout se passe. Hein, et le nombre d'idées qui viennent en voyant ce qui se passe dans le fond de la casserole. Mais c'est, et puis après, être capable de corriger olfactivement une sauce comme ça, dire voilà, il manque un peu de sel, un peu d'épices ou autre chose.
Alain Passard, vous avez dit on devient cuisinier entre 40 et 50 ans. Avant, tout est une école, une recherche. On est dans le doute.
Oui, je pense que ce n'est pas un métier, la cuisine, c'est une aventure. Donc, il y a des étapes comme ça qu'il faut passer. Et puis, Moi, je sais que j'ai commencé à vraiment percevoir les assaisonnements à partir de 40 ans, où là, il y a toutes ces années passées à chercher, à essayer de comprendre, à travailler avec des grands chefs. Et puis, je me suis vraiment senti bien à partir de 40 ans. Ouais.
Vous êtes d'accord, Yves Candebord, avec ça ?
Oui, totalement. Je pense qu'il y a, il y a la sagesse aussi qui rentre en jeu, qui nous pose, parce qu'on va bien souvent à l'essentiel. On sait très bien que nous, le plus difficile, c'est de faire le plus simple possible. Mais après, moi, ce que je voudrais dire, parce que je sais que très bien qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui écoutent, de jeunes cuisiniers qui écoutent l'émission, tout ce que dit Alain, pour moi, c'est la sensibilité. Quoi. Quand on arrive à comprendre les choses, c'est juste par le visuel. Alors, quand on parle de la flamme, je dis, il faut savoir se brûler les doigts au début. Il faut savoir l'apprivoiser. Et ce n'est que de la sensibilité. Parce qu'après, on fait des gestes au naturel. Moi, je vois avec mes apprentis, je leur dis des fois, je ne peux pas vous l'expliquer. Regardez, vous comprendrez. Quoi.
Alors Alain Passard, votre nom est aussi associé aux chefs de la nouvelle génération, Maro Colle-Greco, Bertrand Grébeau, Tatiana Leva, Pascal Barbeau, David Toutain, j'en oublie. C'est naturel pour vous de transmettre ?
Bah, je crois que c'est notre fonction. Quand on a...
C'était pas le cas au départ des anciens chefs de la génération où on savait que certains chefs gardaient des trucs, gardaient des secrets, voulaient pas tout transmettre, hein, ça existait ça.
Oui, c'est vrai que c'est là où on voit que le métier a énormément changé. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que toute cette génération, ils avaient quoi à l'époque? Ils avaient 25-30 ans et il y avait du talent. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ils ont leur maison, ils sont chez eux. Je suis très, très fier parce que bon, ils m'ont vu évoluer auprès de mes clients. Ils m'ont vu prendre du plaisir, surtout dans ma maison. Et je crois que ça leur a donné envie d'avoir la leur.
Alors, le plat du jour est placé sous le signe de la transmission. Justement, nous sommes allés à la rencontre d'un chef aux deux étoiles en plein Paris. Il a été votre second à l'âge de 21 ans. C'est le chef David Toutain. Il nous propose un joli duo de saison, vous pensez bien, comme le patron au micro de Julien Amat.
C'est super. Là, on sort depuis 15 jours, c'est exceptionnel. Encore humide, avec un tout petit peu de terre dessus. Ils viennent des Vosges. L'idée, c'est de venir les gratter, d'enlever juste la terre. On va juste le fendre en deux. Le beurre, on va le démarrer à froid et le monter progressivement en température. On va le cuire à l'unilatéral, c'est-à-dire qu'on va le cuire sur le côté de la découpe. On va commencer à l'arroser. C'est-à-dire que c'est notre beurre qui va aller chercher l'intérieur des chapeaux, les parties qui vont être plus difficiles à trouver. Mais ça peut être pareil sur un poisson, ça peut être pareil sur une viande, par exemple. C'est-à-dire que le cep va être cuit comme une protéine animale. Sur tous les légumes, il faut déjà, je pense, apprendre à les connaître, le produit en lui-même, connaître ses fibres, et également à connaître son goût. Cette école d'Alain Passard, elle permet tout ça. Mais maintenant, on ne se pose même plus la question, en fin de compte. Donc là, au centre de l'assiette, on va juste déposer notre condiment aux noix, quelques noix fraîches qu'on a haché au couteau.
On parle plus, on déguste.
Et ce qui a été merveilleux à l'arpège, c'est que c'est une remise en question mais totale. Nous, en tant que cuisinier, on allait au jardin, mais le jardinier, Sylvain, entre autres, venait avec nous en cuisine, venait nous faire voir ses nouveaux produits. Donc je dirais que c'est cette approche culinaire qui est propre au chef qui m'a beaucoup plu, et cette ouverture d'esprit, en fin de compte, du cuisinier.
Le beau rendez-vous des saisons. Alors le cep, il est cuit, il est cru également avec ce joli condiment aux noix. C'est amusant, c'est vrai qu'on vous retrouve dans ces gestes parce qu'il cuit effectivement ce morceau de cep comme on pourrait cuire et braiser un riz de veau, par exemple.
Oui, puis c'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup de finesse, beaucoup de sensibilité. On parlait d'émotion et c'est un garçon qui a tout ça, quoi. Il était troublant quand il était chez moi parce qu'il était en permanence en recherche. Et parfois, j'ouvrais la porte du frigo, il y avait des trucs qui étaient dans le frigo. Je ne savais pas ce que c'était. C'est des trucs qu'il avait cachés, qu'il avait fait et qui étaient en attente.
Ah, c'est beau. Il s'appelle David Toutain. Il est à Paris. Vous avez goûté sa cuisine dans son restaurant ?
Pas encore.
Alors, ça, je veux que vous nous en parliez parce que je vous connais depuis un moment, Alain Passard. Il paraît que vous ne voulez pas trop aller goûter la cuisine de vos anciens seconds. Vous n'aimez pas aller dans les restaurants de vos anciens seconds. Pourquoi ça? Pourquoi?
Parce que j'ai eu la chance d'être formé aussi par des grands chefs. Et je sais pas, il y a une forme de respect, quoi. Je ne veux pas les mettre mal à l'aise.
C'est de
tout.
La pudeur, c'est ça?
Oui,
petit peu.
Et puis si je vais chez eux, c'est pour passer un moment avec eux, pour casser la croûte avec eux sur le coin de la table. Mais... voilà, c'est...
Bon,
c'est...
En attendant d'aller goûter sa cuisine, je vous offre le livre de David Toutain, un très beau livre sur son univers, sa cuisine, paru aux éditions de la Martinière. Ne bougez pas, amis auditeurs, vous avez laissé des messages sur le répondeur des bons vivants au 3921. On y répond dans un instant avec Alain Passard et Yves Candebord, deux grands chefs pour vous aujourd'hui à la table des bons vivants. Bon samedi midi.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Chaque samedi, vous le savez, nous recevons une personnalité qui aime la table. Ce samedi, c'est Alain Passard, le chef de l'Arpège à Paris, le restaurant triplement étoilé de la rue de Varennes. Vous êtes en train de sentir une feuille de curry apportée par Bina. On parlait de la cuisine indienne. Ça vous inspire, ça, Alain Passard?
C'est merveilleux.
Il y a un petit côté camfré. Expliquez-nous ce que vous ressentez quand vous respirez cette feuille.
Effectivement, le côté camfré, mais il y a une très belle acidité, assez très florale. Presque un peu exotique. Quoi. Moi, je glisserais ça facilement, tu sais, sous la peau d'un Saint-Pierre. Ouais. On décolle la peau du Saint-Pierre avec les doigts, là, puis on glisse ça en dessous. Là, et pendant la cuisson, il y a une petite infusion qui se fait entre les deux.
Non, ça n'a pas du tout le même odorat que quand tu l'as.
Oui,
quand
c'est
tu
ça.
Croques. Ouais. Parce que même à l'odorat, j'étais presque un peu cacahuète. Tu vois, je sais
pas. Et c'est
presque un peu gras.
C'est complexe.
Et avec quels légumes, ça?
Alors, ça, au printemps, je verrais bien ça avec des asperges. En été, peut-être une courgette. Et là, à l'automne.
Salsifis?
Oui, peut-être le salsifis, ouais.
Salsifis. Le poireau.
Le poireau et le salsifis. Mais oui, il faut avoir des poireaux dans le bac à légumes.
Ah oui.
Alain Passard, votre table est courue par le monde entier. Vous recevez des acteurs, des chanteurs, des écrivains. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a épaté par son appétit ou ses connaissances de la gastronomie à votre table, sans trahir de secret?
Oh ben, il y en a beaucoup. Hein. Ce sont très souvent des grands chefs.
C'est vrai. Les grands chefs aiment bien venir manger chez vous.
Oui. Non. Puis c'est toujours une belle complicité. On échange beaucoup. C'est toujours flatteur. Quoi.
Que mange un chef 3 étoiles quand il rentre chez lui? Quand Alain Passard il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il se cuisine?
Du pain et du beurre.
Ah bah oui, c'est votre côté breton. Ça,
c'est dur.
Du beurre salé.
Ah oui, mais un bon pain et un bon beurre.
Ah bah.
Au lait cru.
Au lait cru, bien entendu.
Hein, attention. Hein.
Une belle froment du Léon, par exemple.
Exactement.
Hein.
Puis le pain cuit dans le four à bois. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, quand même. Et vous, Yves
Cordebord,
quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous aimez manger?
Moi, je suis beaucoup plus végétal. C'est des légumes. J'ai toujours des légumes dans le frigo et légumes crus. Parce que ça me permet de mâcher. Parce que le problème du cuisinier, mon problème, moi, je vais dire, c'est qu'on n'a jamais le temps de manger.
On mange vite.
De manger quand on est au travail. On mange toujours vite. Tandis que je me retrouve à la maison, que je prends une carotte, que je croque dedans.
Il faut mastiquer.
Il faut mastiquer et ça me fait du bien.
La table des bons vivants, vous le savez, est à votre écoute tous les samedis. Laissez vos questions au 3921 et on vous répond. Et bien la preuve tout de suite avec une question au 3921, le fameux répondeur.
Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe, c'est Jean-Pierre de Marseille. Voilà, j'ai prévu de faire des légumes farcis. J'aimerais avoir une astuce originale pour faire une recette de légumes farcis. Merci, bonne émission et merci pour tout ce que vous faites.
Ah bah c'est gentil Jean-Pierre. Alors on a la saison en ce moment, on le disait Alain Passard, du céleri, les pommes de terre sont là bien entendu.
Le cèpe farci.
Un cèpe farci, ça c'est super.
C'est quand même, je pense que pour le légume farci, faut quand même une pulpe assez tendre. Moi j'ai un peu de mal, j'ai essayé un céleri rave farci, mais ce qui est agréable dans un farci, c'est entre la langue et le palais. Quand ça explose.
Puis assez étonnamment, le légume farci, c'est pratiquement un légume d'été. Quoi.
C'est avec les légumes d'été.
Et c'est la fin. Alors là, on va le dire, c'est presque la dernière semaine des tomates. Allons-y, des tomates farcies.
Parfait.
Une belle farce.
Totalement végétale ou avec un petit côté animal, bien sûr, s'il reste un peu de pot-au-feu de la veille.
Une autre question au 39-21.
Bonjour la table des gourmands, c'est Paul de Paimpol. J'ai pour habitude d'aller au marché acheter ma salade. Il arrive très souvent, évidemment, qu'il y ait quelques feuilles un peu flétries que j'enlève parce que je trouve que ça n'est pas très joli dans l'assiette quand on reçoit. Mais voilà, plutôt que de les jeter, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces feuilles toutes flétries? Est-ce qu'il y a quelque chose à cuisiner avec? Est-ce que je peux en faire quelque chose?
Alors là,
voilà, merci, au revoir.
C'est une colle, ça, franchement. Flétries.
Moi, j'ai bien une solution, mais je pense que le mieux, c'est élever un beau lapin ou une belle poule et leur donner.
C'est de l'anti-gaspi.
Non, mais il y a toujours une petite feuille un peu flétrie autour de la salade. Après, l'important, c'est d'acheter chez le bon maraîcher, bien la choisir. Ouais. Mais la petite feuille qu'on va enlever qui est sur le dessus, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme l'épluchure de la carotte. Voilà.
Qu'est-ce qu'on en fait, Alain Passard? On peut en faire quelque chose, franchement?
Il y en a tellement peu qu'on pourrait dire faire un petit velouté ou une petite fondue comme ça à la casserole avec un peu
de beurre. Ah oui, quand même. Oui, c'est vrai.
Mais bon, il n'y en a quand même pas énormément.
Non, mais c'est vrai qu'on recherche tous à la maison à faire des recettes anti-gaspille, à ne pas jeter. On le sait qu'on jette 30 kilos de nourriture consommable par an et par habitant en France. Donc oui, un petit velouté avec les feuilles.
Ouais, Laurent, la première chose pour l'anti-gaspille, moi je le redis, c'est faire des bons achats. C'est pas faire des achats compulsifs, d'acheter tout et rien.
Nous sommes d'accord.
Faisons la liste de marché et respectons la liste de marché.
Alors là, absolument, on part faire ses courses avec la liste des menus en tête. Nous sommes d'accord. partager notre avis.
Bien sûr, c'est la clé.
C'est la clé. Nous sommes attablés jusqu'à midi et demi avec Alain Passard. Alain Passard, être chef, c'est aussi manier le vocabulaire du vin. Eh bien, Yves Candebord va peut-être vous surprendre. Il va nous parler des vins orange. Vous avez bien entendu, pas des vins d'orange, les vins orange. A tout de suite, juste après ça sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à la table des bons vivants. Alain Passard est notre invité. Alain, vous êtes un chef, mais aussi un artiste. Vous faites des collages. Vous avez d'ailleurs paru un livre qui s'appelle « Collages et cuisine » en 2010. Vous sculptez aussi. Vous avez immortalisé la découpe de votre homard dans une sculpture. Parlez-nous de la découpe de votre homard, parce que ce n'est pas une découpe académique.
C'est vrai que c'est une façon qui n'est pas facile au niveau du geste, parce que donc le homard est cuit cambré, c'est-à-dire qu'on passe une ficelle de cuisine sur le dos du homard, de la tête jusqu'à la palme arrière, de façon à ce que le homard soit totalement horizontal. Et ensuite, le homard sera cuit, et une fois que le homard est cuit, on va le découper, c'est-à-dire qu'on va le couper d'abord en deux, et chaque demi-homard, étant donné qu'il est à l'horizontale, sera recoupé en deux, ça va faire des quarts de homard. Donc c'est pas facile à expliquer comme ça. Mais
cette découpe, vous en avez fait une sculpture qui est gigantesque, une très grande sculpture, d'ailleurs, qui était exposée aussi à Lille. Vous faites des collages, vous faites des sculptures. Pourquoi ? Parce que la cuisine, c'est un art éphémère et que ça reste ?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il faut savoir que j'ai un de mes grands-pères qui était un peu sculpteur, qui travaillait le rotin, l'osier, le bois. Et il m'a laissé énormément. Il avait un atelier où j'allais énormément le voir. Et puis les collages, parce que la cuisine légumière, et je pense, c'est une cuisine artistique. Et donc, et son inspiration, on va la puiser un peu dans la couleur. Et moi, j'aime bien composer mes plats comme ça à travers. C'est une source d'inspiration permanente.
Mais une de vos plus belles créations qui se mange, là, pour le coup, est un trompe-l'œil. C'est votre tartare.
Oui, exactement, ouais, tout à fait. Ouais,
tartare, c'est, pas avec de la viande.
Oui, totalement végétal, avec betterave. C'est la recette du tartare animal.
Même assaisonnement.
Pas exactement, mais fait avec de la betterave rouge.
Charlotte Langrand.
Oui, vous avez jamais voulu ouvrir d'autres restaurants que l'Arpège. Il faut être pour vous dans son atelier, dans sa cuisine, les mains dans la casserole, les mains dans les sculptures pour être un bon artiste et un bon cuisinier.
Moi, je me plais chez moi. Je me plais chez moi, j'aime bien être chez moi, j'aime bien être avec mes équipes, avec mes clients. Puis c'est vrai que j'aime bien mettre les mains dans la casserole. C'est un état d'esprit, c'est tout. Bon, c'est une passion et que j'ai envie de garder jusqu'au bout.
Il y a des chefs cuisiniers voyageurs et puis il y a des chefs comme Yves Candebord et comme Alain Passard et comme plein d'autres qui aiment, qui ont ce besoin physique d'être dans leur cuisine au quotidien, Yves.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs façons d'appréhender notre métier. Après, l'important, c'est que chacun, les uns les autres, on soit heureux de le faire.
Oui,
c'est la seule chose qui compte.
Exactement.
Après, il y en a qui ont besoin de se nourrir, de voyager. Il n'y a pas une seule façon.
Mais bien sûr. Ouais. Alors, vous remplacez le camarade Olivier Pouls aujourd'hui, Yves Candebord.
Je ne peux pas le remplacer.
Non, il est irremplaçable. Irremplaçable. Olivier Pouls qui mange bien, vous confirmez.
C'est un fin palais.
Alors Yves, vous allez nous parler d'un vin un peu particulier aujourd'hui.
C'est le vin orange. Ça s'appelle aussi le vin de macération.
Ah oui, donc ce n'est pas un vin fait avec de l'orange, mais c'est bien un vin fait avec du raisin.
C'est un vin fait avec des raisins blancs. C'est des raisins qui sont destinés à faire le vin blanc. C'est-à-dire qu'on travaille des raisins pour le vin blanc à la façon de la réalisation de vin rouge.
Oui, c'est un vin qui devient un peu tendance en ce moment. Mais...
Alors, on ne peut pas dire que c'est tendance. C'est le connaisseur, parce que la tendance, j'ai envie de dire, c'est toujours de la nouveauté. Là, on n'est pas dans la nouveauté, parce que c'est des vins qui existent depuis l'Antiquité.
C'est ça, c'est très vieux.
C'est pratiquement l'origine du vin. Alors, on a des écrits, on le retrouve en Géorgie, on le retrouve dans le Caucase, mais c'est des vins, c'est des vins aujourd'hui qu'on revoit apparaître dans les cartes de restaurants, parce que c'est des vins gustativement qui sont intéressants.
Vous connaissez Alain Passard, ce vin orange ? On en a un devant nous, là.
Ouais, je pense bien qu'il connaît, il a l'une des plus belles cartes de vin de Paris.
Comment il est fait, ce vin, Yves Candebord, alors ?
Alors, je vous disais, on prend des raisins blancs qui sont ni raflés, qui sont mis directement dans les cuves.
Alors, raflés, ça veut dire qu'on a retiré la tige, en fait.
Voilà,
qu'on
retire la tige, voilà. Qu'on égrappe, en fin de compte, les grains qui sont mis dans les cuves et qui sont mis à macérer. Alors, la macération peut durer de un jour, deux jours, à voire deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, et voire plus loin. L'intérêt de ça, c'est qu'on a un vin, donc qui a même une apparence quand même proche du vin blanc, mais qui a une...
Et qui tire sur l'orange, effectivement.
Qui tire légèrement sur l'orange, mais on peut trouver aussi des vins orange, ce qu'on appelle les vins de macération, avec des couleurs beaucoup plus légères. Mais c'est un vin qui a une typicité particulière, parce que c'est, en fin de compte, un vin blanc qui a du caractère.
Ah oui.
Voilà.
qui a beaucoup moins d'acidité.
Il a du caractère, je peux vous le dire.
Il a beaucoup moins d'acidité. Et l'intérêt pour nous, les cuisiniers, surtout en ce moment, à la période de l'automne, c'est qu'on a des associations à réaliser assez magiques.
Avec quoi vous servez ça, alors?
Moi, j'adore le servir avec une palombe, le ramier de chez nous, du sud-ouest, qu'on sert rosé avec une poêlée de cèpe. C'est une petite merveille. Et à côté de ça, je suis capable de l'accompagner avec un bleu de termignon, fromage bleu, vin de macération.
Ah oui, c'est un bel accord.
Et je peux vous assurer que si vous vous amusez à la maison, vous le servez à l'aveugle, et avant qu'on vous dise ce que c'est,
oui, parce qu'il
va en dire des choses.
Il a presque un petit côté oxydatif, je trouve, qu'il y a presque des petits arômes de noix là, sur celui que vous nous faites goûter.
Ce
là.
Que je fais goûter est très particulier parce qu'il a été macéré pendant un an et demi.
Oui.
C'est du menu Pugnon. C'est un vin de Loire de Bertrand Jousset. Et c'est vrai qu'il a une légère oxydation qui me plaît énormément parce que justement, je trouve qu'elle amène une pointe de fraîcheur, une pointe d'équilibre qui est très intéressante.
Ça coûte combien un vin comme ça?
Ça va entre 10 euros et 40 euros.
D'accord, donc c'est accessible pour un premier prix,
c'est
on peut en trouver.
Mais c'est surtout un vin de grande gastronomie.
Oui, et puis un petit côté voyage dans le temps aussi, puisque c'est un vin ancestral, c'est ça qui est amusant.
Et c'est fort en degré ou pas?
Alors non, c'est pas fort en degré.
C'est fort en caractère.
On est à 12 degrés.
Ah oui,
d'accord.
Voilà. Mais c'est une vraie typicité. On n'a pas d'acidité, elle est légère, ça a du goût, c'est rond.
Eh bien, on achète le vin orange avec plaisir, avec modération, bien entendu. Merci Yves Condebord et vous retrouverez, amis auditeurs, les références sur europe1.fr. Mon cher Alain Passard, vous qui aimez la flamme, c'est l'heure de vous passer sur le grill du questionnaire des bons vivants, ça va chauffer.
Allez.
Alain Passard, quel est le goût de votre enfance?
C'est le goût de la bouillie. Hein, donc ma mère nous faisait la bouillie, c'était tout simplement une farine qui était diluée dans un peu d'eau et du lait. Et donc on arrivait à texture légèrement molette.
Du blé, de l'avoine, de l'orge?
Blé, ouais. Et donc est simplement servi, assaisonné. Et ça, avec mon frère, on avait ça toutes les semaines, on appelait ça la bouillie.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Alain?
C'était une salade de pommes de terre. Dans laquelle je m'étais permis de rajouter un vinaigre de vin blanc. C'était pas mal.
Votre plus beau repas?
Oui, il y en a plusieurs. Moi, je me souviens bien sûr des... Je pense que c'est Chapelle.
Alain Chapelle.
Alain Chapelle à Mionnet et Freddy Girardet.
Vous avez mangé quoi?
À Crissier. Une dorade merveilleuse aux légumes. Et puis chez Chapelle, les grenouilles, la fricassée de grenouilles.
Votre pire repas, Alain Passard?
Ah non.
Ah, c'est une question obligatoire.
Je peux pas, c'est... C'était chez un grand chef.
Mais si, dites pas le nom, mais pourquoi c'était pire?
Ah ben ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on m'avait dit. Et non, c'est...
Récemment?
Non, il y a un moment.
Dans quelle région? Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer, Alain Passard, est-ce qu'il y en a un?
Ah ben, pourquoi pas? Bon, surtout en ce moment, là, il y a plein de choses qui pourraient... s'harmoniser. J'aime bien quand on est sur des ruptures de saison, comme ça, à cheval, encore, il reste encore quelques tomates. Pourquoi pas l'essayer avec les premiers céleris? Ça peut avoir un petit côté insolite.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte?
Ça serait un panier, hein. Un panier de légumes copieux.
Votre adresse secrète?
Alors, c'est un petit bistrot qui est à la Gerge de Bretagne. C'est le Café des Marchands qui est tenu par Fabrice. Et on y fait une cuisine très simple. Il y a une très belle carte des vins, mais il fait surtout la côte de bœuf dans la cheminée avec des bons légumes qui viennent de la ferme. C'est une adresse à faire si vous passez à la Gerge de Bretagne. C'est entre Vitré et Châteaubriand.
Une belle cuisine rurale alors,
exactement,
comme on aime.
Voilà. Ouais.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Alain Passard.
Ah, il faut jamais avoir faim. Il faut toujours
faut toujours avoir de quoi manger.
Ah oui, il faut toujours. Ouais.
Merci d'être passé à la table des bons vivants, Alain Passard, l'artiste et le grand chef cuisinier. Alain Passard, merci Yves Condebord.
Merci à tous. Merci Charlotte.
Merci Charlotte Langrand. On vous lit demain dans le journal du dimanche. Et chez Yves, on va manger de jolis tapas ou de jolis hors-d'œuvre alors à la
montre.
Des hors-d'œuvre, s'il vous plaît. Merci à Lucille Escourou, Julien Amat de m'avoir aidé à préparer cette émission, Serge Fontaine à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation. Vous le savez, les recettes et les références vous attendent sur europe1.fr. Même adresse pour vous abonner au podcast. Bon week-end, donc faites le marché, la cuisine et le reste aussi. Bon week-end Géraldine, la semaine prochaine on sera avec Stéphane Guillon.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.